Bonsoir à tous. Et bien, ce soir, Cap Cap est de sortie. Cap Cap s'est déplacé. Il a répondu à l'invitation de Jean-Luc Beaufils, qui est en face de moi, que je remercie. Jean-Luc Beaufils, le peintre, qui nous reçoit dans son atelier, un atelier au milieu de la forêt quasiment, un atelier intimiste, un atelier chaleureux. Et puis, c'est un peintre, donc il y a des tableaux un peu partout, ce qui est normal. Il y en a accrochés. Il y en a au sol, il y en a empilé, vraiment une ambiance de peinture, un peu de tous azimuts, parce qu'il n'y a pas que vos tableaux ici, si je comprends bien,
Non, tout
Jean-Luc.
d'abord, merci Jacques de venir s'intéresser à moi. Il y a des tableaux de tout le monde, il y a des tableaux de peintres. J'ai fait une grande collection avec mon épouse, on a fait une grande collection dans un prix raisonnable quand même. Mais comme je suis un amoureux de la peinture inconditionnelle, c'est très éclectique comme choix. Et puis, vous aurez pu le constater, il y a beaucoup de tableaux qui ont été acquis au fil du temps.
Alors, peintre, vous l'êtes depuis fort longtemps. Pourquoi? Pour qui peignez-vous d'abord? Première question, hein. Pour qui peignez-vous?
J'aurais tendance à vous dire pour l'émotion, bien sûr pour une clientèle, mais c'est pour l'émotion et puis pour me faire plaisir. Alors en premier lieu, un peintre, il peint pour soi. Mais avec une derrière, il a aussi un ego, hein, même si on doit les raboter, il a aussi un ego parce qu'il veut se montrer, il veut avancer. Et je peins pour transmettre une émotion, pour transmettre une joie. On dit que je suis le peintre à la couleur. C'est la joie qui prédomine chez moi et c'est une passion. Hein. Donc je peins pour la passion qui m'anime et je peins pour. En fait, je peins pour qu'on me regarde. Ouais, en fait, c'est un
C'est
peu
pour
ça.
marquer votre présence, c'est
Alors,
ça, c'est pour...
marquer ma présence, je ne sais pas si c'est pour marquer ma présence, mais c'est vrai que quand même, c'est un souci de peintre, hein, de se dire. Je vais pas, ça serait prétentieux de dire je vais laisser une marque. Mais au fil du temps, quand même, on y pense un petit peu. On voudrait bien laisser une trace. Moi, je dis toujours que quand on rentre dans une galerie, si on est aveugle, on voit rien, et ça sert pas à grand-chose. Donc, un peintre qui peindrait pour stocker et rester chez lui sans rien montrer, voit pas trop l'intérêt, à part de se faire plaisir, voit pas trop l'intérêt. Donc, petit à petit, l'idée de montrer son travail, de le diffuser à grande échelle, et puis d'acquérir un petit nom ou un grand nom ou un nom moyen, fait trotte dans la tête des peintres. Je pense que
Il y a
globalement.
quand même ce désir de postérité aussi quelque part qu'il ne faut
Oui,
pas
mais alors,
nier.
pour être sincère, oui, en ce qui me concerne, oui. Mais quand, au fil du temps et au fil des années, j'en ai parlé, soit avec mon marchand, soit avec des amateurs, des collectionneurs, ou des gens plus bassement matériels, alors à ce moment-là, ils me disent, bon, la postérité, ça fait pas grand-chose, puisque quand on n'est plus là, on n'est plus là. Mais moi, j'aimerais bien quand même que, même sans être un grand peintre, qu'on me dise, bon fils, ben, c'était un peintre. Voilà, ça me suffit.
Je crois qu'on peut dire que Beaufils, c'est un peintre.
Je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas,
Si, je crois
c'est le souhait que j'ai, quoi. C'est
on
le
peut le
souhait.
dire parce que vous avez peint, vous êtes un peintre extrêmement prolifique. Vous avez une idée de ce que vous avez pu peindre depuis que vous avez
Bon,
touché le premier pinceau?
je dois être à près de 4 000 tableaux, je
Oui,
pense,
donc
oui.
4 000 tableaux, c'est absolument
Ouais.
considérable. Alors, on pourrait vous poser la question, mais pourquoi peignez-vous encore? Qu'est-ce que vous cherchez? Quelle est votre quête?
Alors, je pense, en fait, dans les derniers mots que j'ai dit quand on m'a posé cette question, j'ai dit je peindrai jusqu'à ma mort. Je sais pas, d'abord parce que c'est une passion, on ne peut pas l'arrêter. Enfin, si on est vraiment passionné, on va jusqu'au fond des choses et on essaye de rencontrer tous les moments qui sont des moments de plaisir, des moments de rencontre, des moments de présentation. Enfin, quand on est peintre, on est peintre. On sait qu'on est peintre, je ne sais même pas le définir, mais il y a une différence avec un peintre du dimanche. Un peintre du dimanche, il prend un pinceau. Et puis il peint son tableau le dimanche, et puis il revient le dimanche d'après. Un peintre comme moi, je le dis modestement, mais je le dis vraiment, ça peint tous les jours. Ça peint. J'ai pas fait que de la peinture dans ma vie parce qu'il fallait aussi que je gagne ma vie différemment. Mais je peignais la nuit. Pendant des années, j'ai peint la nuit. Je me levais à 3 h du matin, je travaillais jusqu'à 6 h ou 7 h, et après je partais faire une autre deuxième activité. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir peindre toute la journée, je ne m'arrête pas et je produis. Et je crois que c'est une petite drogue. Alors, c'est une drogue douce, hein, mais elle est aussi violente parce que c'est la même drogue que le collectionneur, par exemple. Quand on démarre une collection, on y va mollo, mollo, et puis petit à petit, ça accélère. Et puis après, on ne peut plus s'en passer parce qu'on achète, on cumule. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas ici, avec les moyens que j'ai, mais j'accumule les tableaux de tous les peintres, de tous mes collègues, des noms un peu plus sympathiques ou un peu plus connus. En fait, c'est ça. C'est pas combler un vide, c'est tout simplement un état. On est peintre. Quand on est peintre, on le reconnaît. D'ailleurs, entre peintres, on se reconnaît parce qu'on parle peinture. Et le sujet, reste présent partout et à toutes les conversations, presque il est unique. Alors c'est peut-être un peu dommage, mais en fait, la peinture, ça rend un peu fou, quoi. Je ne suis pas fou, je ne pense pas.
Vous soignez à travers le pinceau.
Mais je me le soigne, voilà. C'est ça.
On a toujours la même fraîcheur, la même envie, ou ça devient un mécanisme? Parce que c'est de la créativité, c'est de la création. Et ça, ça ne s'improvise pas. Vous dites, j'ai retenu un mot, vous dites, je produis. Alors, produit, ça fait un peu...
Oui, ça fait un peu commercial.
Un peu commercial, un peu marchand, mais ce n'est pas du tout votre démarche, en réalité.
Produire, ça veut dire travailler. Hein, ça, c'est pas, bon, le côté commercial, c'est le marchand qui s'en occupe, c'est pas le peintre. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un marchand depuis 20 ans, mais c'est Souris International. Mais globalement, pourquoi on produit? C'est parce que d'abord, je pense que le métier de peintre, c'est 95%, 95% de travail. Il n'y a pas que moi qui dise ça. Il y a des grands peintres qui disent, vous prenez deux stalles et vous avez d'abord un peu de chance, un peu de travail, 95% de travail, et puis après, c'est le reste, c'est la relation. Je pense que pour travailler, pour devenir un bon peintre, eh bien, il faut travailler sans cesse et sans relâche. De toute façon, c'est la règle générale de tous les métiers. Moi, je ne connais pas de métier où, comme ça, où on arrive au summum sans travailler. Alors, le grand talent...
Il faut être doué au départ, ou pas?
Je ne sais pas s'il faut être doué, ce n'est pas comme ça que je le vois, moi.
Comment ça a démarré pour vous, la peinture? On n'y vient pas par hasard, comme ça. Vous a mis, si je puis dire, le pied à l'étrier ou le pinceau dans la main?
Moi, je viens d'une famille d'architectes. Mon grand-père était architecte, il a travaillé pour le roi du Maroc et tout ça. Puis mon père, après les événements d'indépendance du Maroc, en 1957, est rentré en France. Et puis il était architecte à Saint-Girons, dans l'Ariège. Et donc j'ai baigné dans cette ambiance-là. Même si ce n'était pas de façon intense, mon père était un peintre du dimanche. Et qui m'a permis de connaître ça parce que c'était son moyen à lui de m'occuper, c'est-à-dire qu'il m'offrait des crayons de couleur et puis j'ai démarré comme ça.
À quel âge?
Je devais être à 12 ans, 10-12 ans.
Ça a démarré jeune.
Ensuite, quand j'étais adolescent, j'occupais mes soirées, je décorais les chambres de mes soeurs, de mes frères. Enfin, je pense que tous les parcours de peintres sont comme ça. Je lisais des biographies de peintres. Il y a des côtés familiaux qui font que la vie amène dans certaines choses. Donc moi, quand j'étais adolescent, et même jeune homme, j'étais un petit peu réservé, je ne sortais pas trop. Et puis surtout, quand je n'avais pas de moyens, je ne sortais pas et je passais mes soirées à peindre et à dessiner. Ensuite, plus tard, ça s'est enclenché, mais très, très doucement, quoi. Ça fait, là, actuellement, je pense que j'approche les 45 ans de peinture, si ce n'est pas plus. Et ça s'est pas encore considérablement développé. Bien sûr, j'ai de la chance, j'ai avancé avec l'aide d'un marchand, mais je crois que j'ai encore beaucoup de chemin à faire.
On refait toujours le même tableau, c'est chaque fois différent. Parce qu'il y a des gens qui écrivent, il y en a beaucoup qui refont toujours le même livre, globalement. Oui. Est-ce que c'est pareil au niveau de la peinture?
Alors, là, je peux vous répondre tout à fait franchement et sans modestie, parce que je pense que c'est le seul ou un des rares compliments qu'on me fait. J'ai jamais fait deux fois le même tableau, et je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer, c'est qu'en fait, si je donne une explication sur ma peinture, c'est que globalement, j'avais deux manières de peindre. Je me suis dit ça comme ça, moi. Soit j'ignorais tout, je voulais être singulier et tout seul, et alors à ce moment-là, il ne fallait pas que je regarde aucun peintre, et puis faire une peinture entièrement personnelle, peut-être due à la répétition de quelque chose, de signe. Je connais des peintres qui ont fait comme ça, hein. On peut parler de Buren, on peut parler de Viala, on peut parler de tout un tas de peintres qui sont au-devant et qui ont fait par répétition, on peut parler de Stratos, on peut parler de gens comme ça, qui ont par répétition se sont imposés au fil du temps. Et moi, je n'ai pas voulu prendre ça comme méthode parce que je me serais considérablement ennuyé. Alors j'ai laissé parler mes influences, j'étais une éponge, j'ai tout pris, je suis allé vers ce qui me plaisait, et puis je reste dans ce qui me plaît, et je suis taxé de peintre moderne, je ne suis pas contemporain, on est bien d'accord.
Ça veut dire que jeune, vous vous intéressiez aux autres peintres, vous alliez voir des peintres? Alors, des musées, des reproductions.
Des musées, oui. Mais que je m'intéresse aux peintres, vraiment. Non, je me suis intéressé quand ça s'est enclenché, quand bon, les expositions. D'abord, je savais, je me tenais à ma place. Parce que il faut être modeste quand même en peinture. Hein. Il faut, même jusqu'à la fin.
En peinture et partout.
Il faut être modeste. Donc je me tenais à ma place et j'essayais de. Par contre, j'avais de l'ambition. L'ambition, ça, c'est clair que j'en avais. J'en avais dans le domaine professionnel, que j'ai en parallèle. Puis j'avais aussi de l'ambition peintre. Et puis j'en ai toujours de l'ambition de peinture. La peinture, c'est quelque chose qui. On ne peut pas se dire, on va rester comme ça, dans un carcan. Et... Non, moi, je me suis laissé emporter par toutes mes influences en me disant. Alors, c'est un grand mot, mais il faut le prendre avec gentillesse, avec sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voulais, c'est que. Comme une éponge, je reçoive de tout ce que les grands maîtres m'ont appris, m'ont apporté. Et puis je peux en citer beaucoup, hein, là, il y a des grands maîtres dominants. Et puis je me suis dit qu'au fil du temps, avec la force du travail, avec la manière d'apprendre les choses, avec la technique aussi, parce qu'il faut une technique, il faut apprendre à peindre. Et tout ça, ça allait redonner du beau fils. Voilà. Et alors pendant des années, je me suis laissé critiquer, j'avais peut-être, de temps en temps, ça me faisait mal au cœur quand même d'avoir des critiques qui n'étaient pas favorables, mais depuis quelques années, et je crois que aussi grâce à mon marchand, je donne du beau fils, et le meilleur compliment qu'on m'a fait, vous venez de me le faire, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait deux fois le même tableau. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Je me laisse porter par ce qui m'anime, par ce qui est rentré chez moi. J'ai travaillé en peinture avec beaucoup de joie. Le jour où je n'aurai pas de joie, où je serai peut-être d'une tristesse absolue, ou que j'aurai des problèmes, mais j'arrêterai de peindre. Quoi. Mais en fait, je pense que jusqu'au dernier jour de ma vie, je peindrai.
Alors les inspirateurs de jeunesse, si je puis dire, qui est-ce ?
Alors, j'ai commencé par aimer les fauves. Les fauves. Les fauves, c'est la couleur. Donc c'est... j'ai commencé par aimer les fauves, et puis après je me suis tourné vers l'art brut, comme du buffet, pas buffet, hein. Buffet c'est pas de l'art brut, mais du buffet. Puis j'ai regardé Picasso. Alors Picasso m'a ébloui parce que je peux donner les raisons, c'est que c'est la liberté, Il y a les fauves m'ont appris la couleur, Picasso m'a appris la liberté. Et en fait, en faisant une synthèse des deux, j'ai essayé de donner du beau fils. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est ce que j'essaie de faire. Hein. On ne peut pas dire que... Voilà, j'ai appris de l'un, de l'autre, puis j'en ai pris d'autres. Puis là, actuellement aussi, je regarde de plus en plus les cobras, parce que je trouve qu'un maître comme Carrel Appel m'amène beaucoup. Donc tout ça, c'est un mélange qui va peut-être donner, je ne sais pas. Puis au fil du temps, je m'aperçois que je m'éloigne du figuratif, que peut-être je deviendrai abstrait. Mais je n'oublierai jamais le côté figuratif parce que je pense que c'est une partie intégrante de la peinture. On ne peut pas être peintre sans passer par toutes ces étapes. Quand je fais à bâton rompu, comme aujourd'hui, je discute de la peinture, je dis que c'est un cercle. On démarre par abstrait. Moi, je me souviens de mes premiers dessins quand j'avais 12-13 ans, c'était l'abstrait. Je peux même raconter une anecdote. J'avais fait une exposition au lycée, je crois que c'était en quatrième. J'étais allé en Espagne, on partait rarement en vacances, mais j'étais allé en Espagne et j'avais trouvé un gars qui faisait de la peinture avec un centrifugeur. Il avait mis une feuille de dessin au fond d'un carton avec un centrifugeur, ça tournait et il jetait sa peinture sur sa feuille. Alors avec la force centrifuge, ça donnait des rayons, tout ça, et j'ai trouvé ça magnifique. Quoi. Alors, il avait utilisé ça aussi pour les t-shirts à l'époque. Pour les gens qui ont mon âge, en tout cas, ils s'en souviennent. Et moi, rentrant chez moi, je me suis fait un appareil comme ça, et puis j'ai dessiné sur cette peinture que je mettais. Je dessinais quelques dessins comme ça, maladroits, mais en fait, je donnais des noms ronflants, comme à l'époque c'était James Bond contre le Dr No, un truc comme ça. Je m'éclatais avec ça, et je faisais c'était la première expo que je faisais. Donc au départ, c'est ça. Mais en fait, le métier n'est pas. Après, petit à petit, c'est du tachisme qui arrive. Et après, il faut s'intéresser au dessin. Et puis, quand on s'intéresse au dessin, on devient très figuratif. Et puis après, alors moi, le dessin, je pense qu'on n'arrête jamais de dessiner. On n'arrête jamais d'apprendre, plutôt. On n'arrête jamais d'apprendre. Et il faut travailler toute sa vie, même si Dieu me prête vie.
Travailler seul, vous avez appris, vous êtes allé dans une école, non. Vous avez fait des cours de formation?
Non.
Comment on apprend à dessiner? Moi, je ne sais pas dessiner. Et depuis le temps, ça ne m'est pas venu. Donc, vous aviez quand même quelque chose au départ.
Non, parce qu'on m'a donné des crayons. On remarquait quand j'étais jeune, parce que à l'époque, dans les salles de classe, à Noël, on faisait un cadeau au professeur. C'est dommage, c'est perdu, mais on faisait une collecte et on faisait un cadeau au professeur. Et puis, c'est au début du cours, on faisait un dessin au tableau. Et le préposé au dessin, c'était toujours moi. Donc
oui, les autres avaient senti qu'il y avait de la graine.
Il y avait peut-être de la graine, ou il y avait peut-être quelque chose, je ne sais pas.
Il faut des prédispositions, là, parce qu'il y a des gens qui vont à l'école, qui apprennent peut-être de façon plus besogneuse. Vous l'aviez un peu inné en vous.
Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire ça.
Il y avait une
ça.
Tradition, enfin, alors votre père, votre grand-père était architecte, oui. Donc les architectes sont aussi quelque part, parfois des poètes, un peu des artistes. Est-ce que ça a pu vous marquer?
Je pense que c'est mon père qui m'a marqué en faisant sa peinture du dimanche.
Ah, il peignait. Alors lui, c'était le peintre du dimanche que vous évoquiez tout à l'heure.
Voilà, et je crois que c'est lui qui m'a donné ça. Et ensuite, quand je me suis mis à la peinture au démarrage, c'était pour meubler mon temps. Puis c'était par désœuvrement un petit peu, parce que quand je suis rentré dans la vie active, que je suis rentré aussi dans une vie sociale et tout, et j'avais des moments où j'étais libre, donc je suis pas très sportif, moi. Et donc je m'occupais comme ça. Et puis petit à petit, c'est comme une mayonnaise, ça a pris, et je me suis présenté. Parce que là, il faut oser un petit peu. C'est à l'époque où j'étais un peu insouciant, et peut-être un petit peu, comment dire, avec une ambition démesurée, mais aussi, heureusement que j'avais, parce que sinon, peut-être, je n'aurais pas fait. Mais je suis allé avec mon carton à dessin m'exposer. Et quand on expose, on s'expose, hein, c'est ça. Hein, donc, en fait, je remarquais que dans les municipalités, dans les salles de la culture, tout ça, ben j'avais un prix ou j'avais quelque chose qui arrivait, quoi. Donc, on me remarquait. Bon. Alors après, j'ai un peu pris de hardiesse et je me suis dit, ben, il faut aller dans les galeries. Alors, j'ai pris mon carton à dessin et je suis allé voir dans les galeries. Et alors là, c'était une autre histoire, parce que dans les galeries, quand on n'a pas de maturité, c'est un peu difficile, à moins d'avoir un grand talent, et je ne sais pas, il y en a peut-être un ou deux par siècle, mais enfin, je ne faisais pas partie de cela. Mais j'ai pris quelques portes claquées, quoi, hein. En fait, c'est ça. Mais un jour, il y a une galerie qui m'a dit « Non, ça m'intéresse, je vais vous prendre. » Alors là, moi, c'était le bonheur absolu. Puis on a fait une exposition. Et dans cette exposition, j'ai vendu 6 tableaux en Corée. Comme ça.
En Corée,
parce que c'était le DERICOM de la Corée Airlines, je crois. C'est une société d'aviation qui était à Toulouse. Hein. Il était à l'hôtel de l'Opéra. Il est allé voir la galerie. Il m'en a pris 6. Mais ils voulaient qu'on paye que 5. C'était ça. Alors, en fait, on me posait la question. Moi, j'étais pas dans l'Ariège à ce moment-là. On m'a posé la question. Et j'ai cru que c'était un bonheur absolu pour ça. Un souvenir. Et puis, je croyais que ça démarrait. En fait, les illusions que j'avais, elles étaient au kilo à l'époque. Et puis maintenant, puisque vous me parlez, Jacques, avec beaucoup de gentillesse, je peux vous dire que j'en ai plus d'illusions. J'ai du travail, j'ai de l'envie, mais j'ai perdu mes illusions, quoi. J'espère que j'avancerai encore. Et je ferai tout pour. Mais les choses ont changé. Je sais ce que c'est qu'un travail de peintre. Je sais qu'il faut de la longueur, il faut de l'acharnement, il faut de la chance. Et de la chance, j'en ai eu un petit peu parce que, après cet épisode de mairie, de centre culturel et de galerie, où je suis quand même resté une vingtaine d'années, j'ai un marchand qui est venu me voir en me disant « Mais vous avez un potentiel, ce potentiel, j'aimerais bien l'exploiter avec vous. » Et à l'époque, je n'avais pas encore compris la méthode. Alors, on ne s'est pas mis d'accord. Et on s'est regardé, on s'est attendu 10 ans de plus, quoi. En
fait, voilà, c'est qui n'est pas mûr pour l'un et pour l'autre.
Non, lui, il connaissait son métier, mais moi, je pensais que c'était plus facile. Et puis, les propositions qui avaient été faites étaient quand même un peu difficiles. En tout cas, pas, que je ne considérais pas comme favorable pour moi. Donc, pendant 10 ans, ma situation, bien sûr, s'est améliorée, comme tout le monde, hein, on avance. Et puis, il y a 20 ans, il est revenu me voir, on s'est remis d'accord, et puis là, on a fait un effort chacun, et on a décidé de collaborer. Et j'ai encore eu cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, un message de sa part en disant, on fait une association peintre-marchand qui est de qualité, parce que ça fait 20 ans qu'elle dure, et puis il n'y a pas beaucoup d'associations comme ça. Alors il faut dire que bon, c'est un homme réglo, et que moi, je tiens ma parole. Je tiens aussi notre contrat. Voilà.
On reviendra sur lui tout à l'heure. Vous n'avez pas consacré toute votre vie à la peinture, puisque vous aviez un métier, oui. Une entreprise, je crois.
Oui, alors, Oui, c'est une entreprise, c'est pareil. Je me suis mis avec acharnement de la même manière. Bon, cette entreprise, je m'en suis séparé il y a près de 2 ans, mais je l'ai montée. C'est une entreprise toulousaine que tout le monde connaît, et qui était aussi dans la décoration, dans la peinture, dans la plâtrerie. Voilà.
C'était pas la même peinture quand même.
Ah non,
c'était pas tout à fait le même style
non,
là.
Non. Non, et bien en même temps, comme je suis pas manuel, bon, mais j'avais des salariés. Voilà. Cette entreprise m'a permis justement, peut-être, c'est le côté. Alimentaire, si j'ose dire, ouais, parce que les peintres, ils ont ce souci-là, hein, il faut qu'ils mangent. Hein. Donc, ça m'a permis de me détacher un peu du côté matériel et de peindre dans une tranquillité relative et sans imposer à mon marchand des conditions où il n'a pas pu, lui non plus, m'imposer n'importe quoi. Donc, en fait, on s'est bien entendu comme ça. Voilà.
Si on revient un peu à vos tableaux, à votre style, j'ai lu quelque part que vous seriez, je ne sais pas, vous me direz si c'est vrai, le dernier représentant de l'art moderne français. Qu'est-ce que ça veut dire, le dernier représentant? Alors, je suis content d'avoir le dernier représentant, hein.
Mais profitez-en. Mais en fait, je crois que c'est un argument commercial. Je sais pas. Alors, pourquoi cette phrase-là? Je crois qu'elle est due à la journaliste Annie Hennequin. Parce qu'Annie Hennequin, je me souviens qu'elle avait fait une exposition, et puis elle m'avait critiqué de façon défavorable, enfin voilà. Et puis après, quand je l'ai rencontrée plusieurs années plus tard, eh bien, elle a donné une façon de voir différente. Et puis c'est elle qui est l'auteur de cette phrase qui a été reprise par mon marchand là. Et puis après, bon, mon marchand,
Après, ça vous a collé
après, ça
un
m'a
peu, ça.
collé, voilà. Mais je m'en amuse parce que après moi, il y aurait des gens qui peindront comme moi, et puis encore et encore, je serai pas le dernier. Par contre, l'époque est finie. Parce que maintenant, on est passé à l'époque contemporaine. Moi, je frise avec l'époque contemporaine. J'en fais de temps en temps. Je vais. Je n'irai pas jusqu'au concept, mais enfin, j'y vais. J'y vais. Peut-être que, à la fin de ma vie, si je vis autant que Soulages, peut-être je ferai du noir aussi. Je ne sais rien. Mais, non, je ne vais pas
Tant
le
que vous
promettre.
n'embroyez pas, c'est l'essentiel.
C'est
Hein.
parfait. Voilà.
On vous a aussi qualifié de post-cubiste.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est
Ça, vous
vrai parce que
l'assumez,
je l'assume
cette
totalement. Parce que,
appellation?
oui, parce que je suis à l'aise là-dedans. Je pense que on me dit plus cubiste. Peut-être qu'en y regardant de près, je ne suis pas si cubiste que ça. Mais je suis dans la période entre les cubistes et les Cobras, les modernes. Les modernes. Et après, je flirte maintenant avec le contemporain. Mais globalement, les cubistes m'ont beaucoup séduit. Oui. Moi, Braque, Picasso, tout ça, ils ont. Alors, c'est le cubisme analytique, puis c'est quelque chose qui me parle. Voilà.
Une citation, parce que j'ai un peu lu avant de venir, maintenant avec Internet on trouve tout, des fois n'importe quoi d'ailleurs, donc on fait le tri. Vous allez me dire si ça vous correspond. Donc c'est un journaliste qui parle de vous, qui dit: sur des fonds plus ou moins surréalistes, des visages à la rigueur constructive puissamment synthétique se découpent dans une juxtaposition abstraite et lyrique des couleurs.
Ah mais. Enfin, où c'est que vous avez trouvé ça? Parce que
Je ne sais plus. Sur
voilà.
Internet, il y a beaucoup
Voilà.
d'articles. Vous savez,
Ouais.
je
Oui.
crois que je les ai là. Je vous les laisserai en
Non.
partant si vous
Oui,
voulez.
mais non,
Mais
je ne sais pas.
est-ce que c'est quelque chose qui vous va bien? Est-ce que c'est une bonne définition ou pas?
Oui. Un peintre cubiste, moi j'ai un tableau, c'est quelque chose qui se construit au fil de. Voilà, on peut le regarder d'une autre manière quand on est spectateur. Mais un peintre, il veut dire quelque chose, il l'arrête à un moment donné. Cubiste, pourquoi cubiste, j'en sais rien. Honnêtement, je ne peux pas
Il y a
vous.
eu une
Ouais.
évolution dans votre manière de peindre,
Ah
oui, certainement.
oui.
C'est une évolution, c'est une amélioration ou une évolution?
Ah, c'est l'évolution.
C'est une
Je peux vous
évolution.
raconter des anecdotes, hein. Je peux vous raconter une anecdote de l'évolution. D'abord, je vous en parlais tout à l'heure quand on faisait le cercle, là. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'était du tachisme, après, on devient figuratif. Et moi, j'ai une anecdote à vous raconter, parce que elle illustre l'évolution que peut avoir un peintre dans l'âge, dans la perception, dans les yeux, dans le pinceau, dans le coup de main, et elle illustre parfaitement ça. C'est un tableau que j'avais peint il y a une trentaine d'années, donc j'avais 30 ans, pas 30 ans, et j'ai trouvé que c'était une merveille. Ce tableau, je l'avais vendu. Or, ce tableau-là, il a été remis en vente et acheté par un galériste toulousain, dont je vais dire le nom parce que je l'ai trouvé plutôt sympathique, c'était Cervanti, et je le trouve sur Internet. Et je trouve ça qu'il avait fait un achat, mais c'était une horreur. Quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'avais 28-30 ans, à la soixantaine, je le trouvais complètement nul et maladroit. J'ai appelé ce galériste et je lui ai dit, voilà, vous avez acheté ça, vous allez le revendre, mais moi, je trouve que c'est pas bon. Alors, est-ce que vous me permettez de le retoucher ? Alors, comme c'est un type intelligent, il m'a dit, oui, vous prenez, il me l'a laissé. Il m'a dit, mais comme je l'ai acheté quand même, j'aimerais bien le revendre. Ou en tout cas, je lui ai montré quelques tableaux que j'avais faits, et dans les derniers, et je lui ai dit, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, en prévision d'une catastrophe ? En fait, je l'ai amené chez mon marchand de tableaux. On l'a décroché avec Daphné, qui est son assistante, et je l'ai détruit immédiatement.
À ce point.
Ah, oui, je l'ai détruit parce que c'était pas quelque chose que voilà. C'est un autre d'évolution qu'on peut avoir dans le regard, dans la méthode, dans le goût.
Ouais. Ça veut dire que une évolution, ça veut dire, ouais. Il y a différentes strates, mais pourquoi rejeter ce tableau-là en particulier ?
Je serais pas l'unique.
Si mauvais que ça ?
Je sais pas s'il n'était pas si mauvais que ça, mais de toute façon, je serais pas l'unique. Et puis il y a des grands maîtres qui ont fait ça avant moi et qui ont détruit des tableaux, tout un tas de choses. Et puis on va parler peut-être de Dostal tout à l'heure, mais il en a détruit aussi. En fait, non, il n'était pas bon. Et puis l'œil se modifie, la perception. Il y a l'évolution de l'âge, il y a l'évolution du coup de pinceau, il y a l'évolution des goûts, il y a l'évolution de la perception des choses. En fait, et puis il y a un petit peu de modernité qui arrive, il y a l'époque qui s'inscrit dedans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'un tableau, c'est peut-être un point donné à une époque, et puis quand cette époque est dépassée, voilà. Il est peut-être plus dans le goût du peintre. Voilà. Alors après,
vous n'allez pas détruire tous les tableaux que vous avez faits qui ne vous plaisent pas.
Non, c'est pas ça. Mais j'en ai détruit pas mal quand même. J'en ai détruit pas mal. Et puis je pense que si je pouvais en rattraper quelques-uns, je le ferais bien volontiers. Mais bon, après, c'est une histoire de goût. Puis ce qui me plaisait à 30 ans n'est pas systématiquement le même travail qu'à 60.
Comment on reconnaît un beau fils ? Qu'est-ce qui va de suite nous permettre de vous l'attribuer ?
Alors ça, j'en sais rien, mais je peux peut-être vous donner une explication. C'est que si vous voyez un mélange de toutes mes influences et que c'est mélangé et que normalement vous devriez le savoir vous-même. C'est-à-dire que c'est ce qu'on me dit d'ailleurs, hein, c'est que quand un collectionneur ou un amateur me dit « je reconnais de suite un beau fils », c'est aussi un compliment qu'on me fait maintenant. C'est, m'a fallu longtemps, mais en fait, j'y suis arrivé. C'est la synthèse de tous ces enseignements que j'ai eus. En fait, il y en a peut-être deux qui sont à retenir. La couleur de Matisse et la liberté du travail de Picasso. Et si vous faites une synthèse de ces deux grands maîtres qui sont pour moi des phares absolus, que j'aime, que j'admire, que je les ai tout le temps sur mon regard, ils m'aident, ils m'aident en permanence, et je ne renie pas ça, même je le revendique. Peut-être que, modestement, si on regarde une réunion de ces deux, on peut trouver un peu de beau-fils, peut-être.
Alors les techniques que vous employez, on dit aussi que vous changez beaucoup de techniques avec facilité, avec beaucoup de bonheur aussi, vous passez de l'une à l'autre. Quelles sont vos techniques favorites ?
Ah, je m'interdis rien. Alors j'ai peut-être plus d'aisance sur le papier que sur l'huile. Mais je m'interdis rien, je fais du fusain, je fais de l'encre de Chine, je fais de l'acrylique, je fais de l'huile, du papier, de la toile, je fais même sur des supports parfois un peu bizarres. Ça m'est arrivé de travailler sur du papier birman, hein. Dernièrement je suis allé en Birmanie, j'ai fait tout un tas de croquis sur le papier birman, qui est un papier épouvantable parce qu'il bave et tout ça, mais je fais ce que je peux, et même sur du papier Job aussi, tiens.
Voilà, sur papier Job.
Vous vous souvenez de l'histoire de Job,
hein. Ah oui, tout à fait.
Je trouve que j'ai un ami qui a encore du papier, puisque c'était un cadre de chez Job, et puis qui a bien voulu gentiment me donner ce papier un peu glacé. Et puis je me suis mis, parce que c'était un grand format, et je me suis mis à faire du travail. Donc je ne m'interdis rien, je fais tout ce que je peux. Voilà,
Et les formats, alors le c'est
format,
varié.
Je vais vous en parler. Mais je termine, parce que la seule chose que je ne fais pas, c'est de la bombe. Je ne bombe pas. Enfin, comme les street art ou les graffeurs, je ne le bombe pas. Pas encore. Je ne fais pas ça. Mais sinon, après, au niveau des formats, tous les formats me sont permis. Sauf que j'ai manque de place. Vous venez le constater, puisque l'émission se fait chez moi. J'ai manque de place. Et ensuite, j'ai aussi une contrainte que je prends de façon facile, c'est parce que avec mon marchand, nous avons décidé de faire un format qui s'appelle le 15P, c'est le 65-50. C'est le format le plus adapté aux appartements, aux ventes, à nos acheteurs, aux collectionneurs. C'est parce que quand on fait un 15P de 65-50 et qu'on le rajoute, c'est un format qui est assez agréable dans un appartement. Après, il y a des grands, je fais des grands formats, ça m'est arrivé, mais c'est plus rare. Voilà.
Et les sujets ?
Alors les sujets, ils arrivent au hasard. Je suis un général. Il y a un moteur qui c'est que quand je vais voir une expo, quand j'achète un livre, parce que j'ai beaucoup de livres de peintre et surtout de mes maîtres, hein, quand je regarde une documentation, tout ça, ça m'assert. Et puis après, à un moment donné, je me mets devant la feuille et puis je démarre. Et je démarre sans trop savoir où c'est que ça va, quoi. Hein. En fait, pour ça, je voudrais vous lire une phrase de Picasso, parce que je la connais pas par cœur, mais je voulais écrire, parce que ça correspond tout à fait à ce que je pense. Un tableau n'est pas conçu ni fixé d'avance. Pendant que l'on y travaille, il se modifie, et en même temps, il change en fonction des pensées. Et qu'une fois terminé, il continue à se modifier selon l'esprit de celui qui le regarde. Donc en fait, un peintre démarre, il ne sait pas exactement ce que c'est. Ça m'est arrivé de vouloir faire un nu et de terminer par une nature morte, ou de faire l'inverse, une nature morte et de terminer par un paysage, ou par une abstraction totale. On démarre, et en fonction, on le construit. C'est un peu une construction, pas mécanique, mais une construction au fil du temps. On ajuste la couleur, on ajuste un point, on ajuste un trait, on revient, et pour faire un ensemble harmonieux. Il y a une chose qu'il faut éviter, c'est la maladresse. Même dans un tableau cubiste, même dans un tableau déstructuré, ça se voit, une maladresse. Ça m'est arrivé, et j'en ai laissé passer. Mais la maladresse, c'est quoi ? C'est que quand votre cerveau, ou le cerveau du spectateur, ne retrouve pas la cohésion, n'arrive pas à remonter le tableau que vous avez fait. Alors je m'exprime. Il m'est arrivé de faire des têtes, avec des bras et des mains qui appuyaient sur le visage. Et je trouvais que ça n'allait pas. Par exemple, avec la main droite, le pouce est à droite, quand on le regarde de face. Hein. Et moi, je l'avais mis dans l'autre sens, je m'en étais pas rendu compte. Mais le tableau ne me parlait pas. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Il m'a fallu me reposer pendant 2 jours, puis voir que je m'étais trompé, j'avais le pouce à l'envers. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que malgré le fait que vous déstructurez un tableau, il faut permettre à la personne qui le regarde en face de le reconstituer. Son cerveau doit pouvoir le reconstituer ou ne pas trouver. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que c'est une anomalie ou une maladresse.
Et des modèles, ça vous arrive de prendre des modèles pour peindre ou...
Non, non. Pratiquement jamais ici. Je l'ai fait une fois, parce que je faisais partie d'un collectif de peintres où on faisait venir un modèle et on le croquait sur place. Bon, c'était plutôt des parties de rigolade et puis c'est pas sérieux. Alors après, le faire venir dans mon atelier, prendre un modèle comme ça, il m'arrive de faire des portraits quand on me le demande. Et je le fais pour faire plaisir parce que c'est pas systématiquement l'exercice que je préfère, mais je le fais quand... Des amis me demandent de faire des photos, des portraits de leur fille ou de leur petite fille, ou même dernièrement, un avocat.
Ah, c'est pas les modèles qui manquent en matière d'avocat.
Voilà.
Et vous peignez où et quand ? La nuit, vous avez eu plein la nuit, vous peignez le jour. Est-ce qu'il y a un moment, certains auteurs, je rapproche toujours de l'écriture parce que j'y suis peut-être plus à l'aise, certains auteurs écrivent toujours à certains moments, c'est régulier, c'est institutionnalisé. Est-ce que vous avez des moments privilégiés pour peindre ? Est-ce que vous arrivez à 9h devant votre chevalet et vous dites je peins 3 heures et puis ensuite j'irai me balader ? Ou alors non ?
Alors,
c'est comme ça vous prend ?
Non, pendant longtemps, j'avais des horaires quand même, hein, parce qu'il fallait aussi que je dirige l'entreprise. Donc je travaillais la nuit, pas beaucoup de sommeil, mais je travaillais la nuit. Je me réveillais, et puis je travaillais le week-end, je travaillais pendant les vacances, je travaillais le soir. Je ne cherche pas à regarder trop la télévision, donc je montais dans mon atelier. Et je travaille dans mon atelier essentiellement, hein, c'est là que ça se passe. Il m'est arrivé de travailler sur le motif, quand j'étais plus jeune. J'ai vite arrêté parce que d'abord on est déconcentré, c'est pas systématiquement ce que il y a un attroupement. Moi je préfère travailler seul et dans le silence ou en musique et avec mes chats. Parce que mes chats sont importants aussi, ils arrivent.
Oui, on en a vu une en arrivant, oui. Adorable.
Alors ils viennent, ils se mettent à côté de moi et puis ils travaillent, j'aime bien ça. Voilà, je travaille comme ça, dans mon atelier exclusivement.
Vous mettez combien de temps pour faire un tableau ? C'est une mauvaise question ça. Ça dépend du tableau, ça dépend du moment, de l'inspiration, de l'envie, j'imagine.
Oui, mais c'est une question qu'on pose souvent au peintre, Jacques.
Oui,
En fait, je ne sais pas comment vous répondre. Vous dire que c'est une mauvaise question, je ne voudrais pas quand même vous dire que oui, c'est une mauvaise question. Mais je vais vous faire la réponse de Picasso. Je l'ai fait peut-être en 4 heures ou en 5 heures, un tableau. Mais pour le faire en 4 ou 5 heures, il m'a fallu 40 ans de métier. Voilà.
D'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, votre marque de fabrique aussi, si je puis ainsi m'exprimer, c'est la couleur. Il y a beaucoup de couleurs dans mon tableau. J'ai toujours des citations. Hein. Un artiste a écrit une journaliste qui s'appelle Marie-Odile Péter, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Un artiste qui fait de sa vie un jaillissement de couleurs. Son cœur bat dans chaque tableau, révélant passion et sensibilité au fond des yeux de ses personnages. J'ai même lu quelque part que vos tableaux seraient, mais c'est vrai, je les vois, des antidotes à la sinistrose et un hymne à la joie. C'est magnifique, vous allez être remboursé par la sécurité sociale.
Je devrais.
Vous devriez.
Non, oui, la couleur, c'est la vie. Hein, c'est la couleur, c'est la vie. Moi, j'ai toujours été admiratif, mais pas uniquement que la couleur. En fait, ça dépend, parce que quand je vois des tableaux de Soulages, je suis allé dernièrement voir des tableaux de Soulages, je trouve ça aussi magnifique, ou des tableaux de Morfin, je trouve ça très, très, très beau. Je fais aussi beaucoup de noir et de blanc dans mes travaux. Donc, en fait, pourquoi la couleur? Ben parce que c'est quelque chose qui m'anime, je ne sais pas pourquoi, puis je l'ai apprise. Hein. On parlait de Matisse tout à l'heure, il n'y a pas que Matisse, tous les fauves, on parle de Manguin, tout là, tous ces gens-là qui ont été des modèles. Puis petit à petit, je crois. Puis je ne sais même pas si ce n'est pas une marque quand même. Vous savez, quand on démarre, quand on n'a rien, je ne sais pas si la couleur ne vous aide pas à vivre. C'est comme le soleil un peu. Au démarrage, c'est ça, un peu. Hein. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie avec Françoise. Et j'ai remarqué que dans les pays pauvres, et plus ils étaient pauvres, plus ils avaient de la couleur. Il y avait souvent des couleurs criardes. Et ça devait les aider à vivre. Alors peut-être qu'au démarrage, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas dans les mêmes conditions, mais peut-être qu'au démarrage, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que la couleur m'aidait à passer, parce que c'est. Bon, les temps ont passé, mais ce n'était pas systématiquement simple tous les jours. Voilà.
Vous avez dit tout à l'heure, j'ai peint plus de 4000 tableaux, je n'ai jamais refait le même. Vous vous souvenez de tous les tableaux que vous avez faits? C'est imprimé quelque part?
Je me souviens quand je les revois, parce que parfois ça m'arrive, il y en a beaucoup que j'ai perdu de vue.
Donc vous avez peut-être pu refaire parfois le même, non? Ils ne sont jamais vraiment les mêmes, mais...
Non, c'est pas ce qui est le même, parfois c'est le... Il y a un sujet récurrent ou un sujet qui vient, je vais vous raconter deux anecdotes là-dessus, mais on ne fait pas deux fois le même tableau. Je peux faire le même sujet, je peux faire deux fois un portrait de Rero, mais ce ne sera pas deux fois la même chose. Je peux faire des portraits ou des peintres au travail avec son modèle, mais ce ne sera jamais deux fois le même tableau. C'est le sujet, mais le sujet, vous savez, c'est assez rapide. Hein. Vous avez un paysage, vous avez un portrait, vous avez une nature morte, vous avez une composition, vous avez une abstraction. Tous les peintres tournent autour de ça. Il n'y a pas des sujets. Si, il y a aussi le cosmos, hein, maintenant, parce que j'ai un peintre qui peint le cosmos. Mais quelque part... Les sujets sont pris dans la vie, ils sont pris dans la vie, et puis après vous les interprétez. Mais à ça, j'ai une deuxième citation de Picasso qui je ne sais pas où c'est qu'elle est, mais il disait, je pense que je l'ai là, je la connais, au lieu de peindre des choses, on s'est mis à peindre des idées. Voilà, ça c'est Picasso qui disait ça. Et bien ça correspond tout à fait à ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous démarrez par une chose, et petit à petit, les idées elles vous arrivent. Alors, la question que vous m'avez posée tout à l'heure, je n'ai pas entièrement répondu. Comment ça les sujets arrivent? Eh bien, en descendant l'escalier, quand vous avez travaillé beaucoup, 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 c'est comme un métier d'avocat, c'est comme un métier d'opticien, comme un métier, je ne sais pas, de médecin qui fait X, ou de chirurgien qui fait X opérations, quand il fait son métier et puis qu'il le fait bien et puis qu'il essaye de le faire du mieux possible, à un moment donné, les idées, elles arrivent toutes seules, les images arrivent toutes seules. Alors, j'ai appris dernièrement que vous écriviez, hein, vous écriviez. Donc, moi, la question, je vous la retourne. Comment faites-vous quand vous avez une page blanche pour pouvoir écrire 10 pages d'affilée ou 100 pages?
Et depuis que je vous écoute, je me rends compte que finalement, devant ma page, je fonctionne un peu comme vous. Et que c'est exactement le même processus intellectuel. Alors, beaucoup plus modeste, parce que mes livres ne sont pas vos tableaux, mais effectivement, c'est le même processus créatif.
Je pense que vous êtes trop modeste parce que un tableau, ça se modifie, une feuille aussi, mais votre histoire, elle est arborée plus longtemps. D'abord, il faut une grosse culture, et puis ensuite, un tableau, peut-être qu'il faut un peu de culture picturale, il faut peut-être du goût, il faut peut-être un savoir-faire, mais il faut arriver à intéresser, mais on intéresse un spectateur momentanément. Moi, je pense à Bernard Buffet quand il disait ça, pour apprécier un tableau, il faut un milliardième de seconde. Et puis, on ne peut pas. Où il y a une émotion, où il n'y en a pas. Il y a deux choses qu'on peut dire sur un tableau. Il y a les tableaux qui plaisent et les tableaux qui ne plaisent pas.
C'est une affaire de goût, c'est très
C'est l'affaire de goût.
subjectif.
Voilà. Un livre, ce n'est pas pareil. Un livre, je pense que, bon, je l'ai lu un petit peu quand même,
Ça
mais.
plaît ou ça plaît pas, c'est pas un
Oui,
peu pareil.
on peut y revenir, on peut essayer de retravailler, essayer de le relire, peut-être, enfin je ne veux pas essayer de vous apporter des arguments, mais on peut peut-être trouver un intérêt à un livre en le relisant ou en le comprenant, parce qu'on passe à côté. Un tableau, quand il ne plaît pas, il y a grand chose qui reste à ne pas vous plaire. Voilà.
Citer Picasso, cette phrase intéressante en disant maintenant on peint des idées.
Oui.
Ça veut dire aussi qu'on peint des idées éventuellement politiques. Picasso a fait des tableaux politiques.
Oui, bon, il s'est même fâché avec le Parti communiste, puisqu'à un
Oui.
moment donné, quand il avait fait le portrait de Staline, là, et je crois que ça a fait un grand bazar, quoi. Mais bon, moi, j'évite ça. D'abord, je ne sais pas ce niveau-là, puis ensuite, je ne fais pas de politique, j'évite ça, là, les idées politiques. Non, ce que je veux dire, on peint des idées, on peut peindre.
Est-ce que ça veut dire qu'à travers un de vos tableaux, vous faites passer quelque chose, vous exprimez quelque chose, vous dites quelque chose?
À jamais.
Non?
À jamais. Jamais, j'ai jamais fait passer de message. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Ce que j'essaie de faire passer à travers mes tableaux, c'est l'émotion du moment, l'esthétique du moment, la joie du moment. Il faut que ça plaise et puis que je percute. Il faut que je percute la rétine du collectionneur. Et puis qu'il se dise, bon, il y a un intérêt, après il le regarde différemment, mais c'est ça. Après, je ne peux pas lui dire, votez un tel ou votez un tel, ou je vais penser, moi j'aime les animaux. Hein, je dessine parfois des animaux dans mes tableaux, j'aime les animaux, je les protège, en fait j'essaye de les protéger, j'aimerais bien m'investir davantage là-dedans. Mais quelque part, non, il n'y a pas de message. Et puis bon, sûrement il y a des peintres à message, mais je pense que.
Alors justement, Jean-Luc Beaufils, on a un tableau là, à côté de nous, enfin il y en a beaucoup, mais on en a le plus proche de nous. Prenons ce tableau, c'est un exemple. Comment il est ancien déjà, c'est un
Alors
tableau?
non, c'est un tableau récent. C'est un tableau récent. Et ce tableau, il doit avoir un mois, peut-être un mois. Mon marchand ne l'a pas encore vu.
Ah,
Voilà.
d'accord. Alors
Donc il voilà.
comment ça a démarré là? Vous êtes mis devant
Mais ça a
votre...
démarré par le hasard, déjà, parce que je me suis mis devant cette toile, et puis je ne savais pas trop où j'allais. Par contre, j'avais, quelque temps auparavant, vu un cobra, vu deux cobras. Je suis allé voir sur le travail de Carré Lapelle. Je m'étais dit, voilà. Et puis. En regardant mon chat, moi j'ai un chat qui s'appelle Pablo. C'est
Oui,
intéressant.
par hasard, oui, voilà. On a vu Paloma aussi, hein, on a
Non,
toute la famille.
Lolita.
Lolita,
Lolita,
pas
voilà.
Paloma, non,
Donc,
Paloma, c'est sa fille.
ouais. En le voyant, mais je me dis pourquoi tu ferais pas un chat? Puis alors donc, je suis resté dans le domaine du cobra, enfin, dans la facture cobra, mais à ma manière, oui, évidemment. Et puis j'ai. Alors vous voyez, il y a un chat qui. Je ne sais pas si vous le voyez,
Oui,
voilà,
très bien,
il
oui.
y a un chat. Et puis, j'ai rajouté une souris qui lève les bras.
Oui.
Hein, parce que c'est la trêve, c'est-à-dire le repos. Et puis derrière, eh bien, je suis un spectateur, parce que dans l'après-midi, je les ai vus en
Donc il y a un
train
autoportrait dans le tableau.
de. L'autoportrait, si vous trouvez une ressemblance, mais c'est un peintre. Hein. Voilà, c'est un peintre. C'est un peintre. Voilà. Et
Il y en a
après.
d'autres qui se sont peints en train de regarder leur propre tableau.
Oui,
Hein?
mais Dali.
Oui, entre
Dali l'a
autres,
fait
oui.
aussi, entre autres. Ouais. Mais en fait, je.
Les Ménines aussi.
Oui, les Ménines, oui. Oui. Mais dans ce tableau-là, moi ce qui me plaît, c'est d'abord l'esprit cobra, c'est la liberté, cobra c'est la liberté, hein, c'est la liberté des choses. Hein. C'est les animaux, c'est ma patte, et puis c'est une cohérence, et puis ça me raconte une histoire, quoi. Voilà, en fait, c'est une histoire, mais c'est mon histoire de chat de l'après-midi, quoi. Il n'y a pas de grande portée, il n'y a pas de message. On aime ce tableau, on l'aime pas, quoi. Donc, ça serait comme ça. Peut-être que mon marchand passera à côté sans le voir. Peut-être je le vendrai ou peut-être je le garderai une éternité, j'en sais rien. Voilà.
Alors justement, votre marchand, votre galeriste, qu'est-ce que c'est le métier d'un galeriste? C'est de valoriser, c'est un éditeur finalement, je ramène toujours, je fais toujours des parallèles avec les livres, c'est lui qui va Est-ce qu'il vous guide dans les conceptions? Non, vous lui montrez un travail qui est fini, vous ne l'interrogez pas au cours d'une conception?
Non. Alors, voilà. Je ne l'interroge jamais sur la conception. Par contre, on avait au départ... c'est un marchand que j'ai, moi. Ce n'est pas un galériste. La différence, elle est là. Un galériste, il vous propose une exposition et vous lui portez et il accepte les tableaux qu'il choisit. Voilà. Un marchand, ce n'est pas pareil parce que lui, il les achète. Donc, à un moment donné, il veut vous conduire vers un acte marchand.
Il a une démarche plus commerciale qu'esthétique. Voilà. Oui. Enfin, il sait aussi que l'esthétique attend le public, il va vous guider peut-être. Ce qu'il vous dit, il faudrait, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut des tableaux de tel et tel format, on a choisi, voilà. Parce que sinon je ne peux pas les vendre. Et est-ce qu'au niveau de l'esthétique, au niveau du contenu du tableau, il va aussi suggérer quelque...
Ah, il a tenté.
Il n'a pas réussi.
Bon, parce que j'ai du caractère, et ensuite parce que... Mais il a tenté, c'est un homme intelligent qui a tenté gentiment quand même. Parce qu'il me fait remarquer... que le vert, par exemple, n'est pas trop apprécié dans les tableaux par les amateurs. Et il a vu à mon geste complètement étonnant, parce que je me suis remonté les cheveux, que, d'agacement, quoi, j'ai cherché le mot, qu'il fallait pas... Et il m'a dit, je vous ai rien dit.
Donc, alors, il est psychologue,
en plus. Bien fait, parce que c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors, voilà comment on va procéder. Je vais travailler... je vous proposerai l'ensemble de mon travail et vous choisirez ce que vous voudrez. Parce que lui, c'est un marchand qui achète. C'est quelqu'un qui achète.
Lui, il vous paye, il en fait ce qu'il en veut après. Il le vend, il le vend pas, il veut.
On a une convention. Et puis, un galeriste, c'est pas pareil. Un galeriste, il respecte votre prix et puis il prend sa commission sur la vente. Quoi. Un marchand, il vous achète des tableaux. Moi, c'est la grande chance que j'ai. Souria International, c'est un marchand. C'est quelqu'un qui... En plus, bon, il aime mon travail, parce que sinon, il ne m'aurait pas. Il aime mon travail, mais en même temps aussi, il aime vendre. Donc, parce que s'il ne m'avait pas vendu, je pense que je n'aurais pas fait 20 ans avec lui. Hein. Je n'ai pas dupé, hein, quand même. Hein. Donc, quelque part, c'est comme ça que ça marche.
Et les expositions, c'est à son initiative, à la vôtre ou
au départ, c'était à mon initiative, et puis maintenant, c'est à la sienne, et puis bon, on en parle. Voilà. L'actualité aujourd'hui, là, c'est que nous avons, à la demande de Sisteron Patrimoine et Culture, on a une exposition au musée gallo-romain de Sisteron qui dure depuis le 24 février jusqu'au 28 avril.
Je l'ai vu.
Vous l'avez vu, bon, voilà. Donc là, comment ça s'est passé? C'est la démarche de Sisteron qui s'est rapprochée de mon marchand en disant bon, on veut faire une exposition. Je suis très content d'ailleurs parce qu'il y a des peintres comme Cesseau, comme Chabot qui vont suivre, tout ça. Ben.
Donc, puis c'était dans une région où vous avez eu de glorieux prédécesseurs.
Oui. Moi, j'étais très très content parce qu'en plus, à Sisteron, ils ont été d'une grande qualité. Ils ont fait ça de façon professionnelle. Ils m'ont reçu très gentiment et tout. Et donc je suis ravi. Il paraît que. Aux dernières informations, qu'il y avait 2000 personnes qui étaient allées voir cette exposition. J'espère que d'ici la fin du mois, il y aura davantage. Voilà.
Aujourd'hui, vous avez passé les frontières. On vous trouve un peu partout dans le monde.
Alors, grâce à mon marchand, toujours. Hein, parce que,
grâce aussi à la qualité de ce que vous faites, surtout.
On me trouve quand on veut me trouver. Mais enfin, bon, c'est mon marchand qui s'occupe de tout ça. Hein. Ils ont des méthodes, vous savez, les marchands.
Il paraît que vous êtes dans les 1000 peintres qui comptent dans le monde.
Ah, c'est vrai, non. Bon, qui comptent, non. En 2007.
Parce que, 2017.
Oui, en 2007. Il y a déjà 7 ans. Non, ce qu'il s'est trouvé, c'est que je crois que c'est Beaux-Arts qui avait fait ça, ils avaient fait une enquête. Et je trouvais que cette année-là, il y avait un marteau qui avait été frappé assez fort. Et donc, ça m'a fait basculer dans les 1000 peintres qui faisaient le marché de l'art. Mais depuis, ça ne s'est pas renouvelé. Donc, en fait, j'existe. Mais il faut quand même
rester. Mais vous avez un prix, vous avez une cote. Quand on achète Beaufils, on sait à quoi on s'expose, si
exactement.
Je puis dire.
Bon, c'est quand même. C'est pas la cote de Combas, c'est pas la cote des grands peintres, mais c'est quand même accessible pour les gens qui veulent faire un effort, quand même. Voilà.
Vous avez besoin, pour peindre, de solitude ou de concentration ou, vous pouvez peindre en famille avec des gens autour ou c'est la solitude qui prédomine?
Ah, vous avez remarqué qu'ici, il n'y a pas d'enfants, qu'on est dans le calme absolu,
oui.
À part mes chats.
Il y a la forêt autour, il y a la nature, donc effectivement, il y a une sérénité à tout le moins.
Voilà, et c'est ça. Bon, je ne peux pas dire que j'en ai besoin, mais je l'ai. Donc, c'est vrai que quand il y a du monde, je ne peux pas peindre. Hein, je préfère. Et même, mon épouse ne monte pas pendant que je travaille.
C'est interdit.
C'est pas que c'est interdit, mais elle le fait pas.
Elle respecte, le travail.
J'écoute un peu de musique parfois, mais c'est rare. J'ai tout ce qu'il faut ici pour peindre, écouter la musique, mais c'est rare. Je préfère travailler dans le silence et puis réfléchir, retravailler. Enfin, je suis je suis pas motivé par le bruit. Hein. Je suis pas.
Oui, peu de monde qui doivent l'être motivés par le bruit. Alors, qui dit tableau, on a dit un marchand, très bien, mais Il faut aussi quelqu'un qui va acheter le tableau, qui va l'apprécier. Donc il y a le regardeur, si je puis ainsi m'exprimer, et le client. Ça peut être aussi le même, après qu'il ait regardé, il a apprécié. Quel rapport vous avez avec ceux qui viennent visiter vos expositions ou vos clients, les clients qui achètent des tableaux? Est-ce que vous les revoyez? Est-ce que vous avez eu des commentaires de la part de ces gens? Est-ce qu'ils aiment venir vers vous, échanger?
Alors, la majorité des clients que j'ai, ils passent par l'intermédiaire
Par
de mon marchand.
l'intermédiaire de
De mon
Monsieur
marchand.
Souriant, oui.
Voilà, donc je ne les vois pas, ou si j'en croise, évidemment. Mais à Toulouse, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et avec qui je discute ou avec qui je parle un petit peu de peinture. Ou chez moi, parce que aussi j'en mets chez moi parfois. Je peux parler des travaux ou de l'évolution de mes travaux. Puis il y a des choses que j'oublie, et puis voilà. J'aime bien me retourner un petit peu, mais pas trop quand même, hein, parce que je préfère parler de ce qui arrive. Voilà. C'est le sens de votre question,
Oui, c'était
est-ce
ça,
que...
c'est de savoir. Parce qu'il y en a un qui a dit, qui est célèbre avec cette phrase, que c'est le regardeur qui fait le tableau. Donc c'est intéressant de voir comment quel rapport vous pouvez avoir avec ce regardeur.
Mais c'est le prolongement de la phrase de Picasso que je
Mais
dis, parce que
oui.
le regardeur, lui, il modifie son tableau. Il y a parfois
Il se l'approprie,
il se
chacun il se
l'approprie, puis voilà,
l'approprie.
et puis on me dit, on voit ça,
Oui,
alors
il
qu'en
voit des
fait,
choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé.
je n'avais pas pensé, parce que c'est pas la peine de faire un cinéma. On discute, moi je donne un avis, je donne une image, et cette image, elle était interprétée. Si l'interprétation me convient, parfois j'acquiesce. Hein. Je dis, bah oui, parfois je dis non, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais c'est rare quand même quand j'ai de la discussion a posteriori. Hein. Je veux dire qu'en fait, quand je le vois, il y a des collectionneurs que je vois qui m'invitent chez eux. Donc je revois mes tableaux depuis longtemps.
Ça vous fait plaisir de les revoir.
Parfois oui,
Mais vous avez
parfois
un œil,
oui.
on l'a compris tout à l'heure, un œil un peu critique et des fois
Oui, oui,
peut-être
oui.
une déception en disant si je pouvais lui reprendre, j'arrangerais ceci ou cela.
Oui, ben, oui, c'est vrai, ça m'arrive assez régulièrement, mais en même temps, ben, ce qui est terrible, c'est que ça vous remet aussi dans le contexte des années qui passent, quoi. Hein. C'est-à-dire, quand vous regardez un tableau que vous avez fait à 28, 30 ans, eh bien, c'est quelque chose qui vous ramène à la réalité. Vous les avez plus. Vous
Oui,
avez...
il y a
Donc,
ça aussi,
voilà, vous dites,
effectivement.
bon, et alors,
Ils sont signés tous vos tableaux, bien sûr. Est-ce qu'ils sont datés?
non,
Non.
non. Au
Donc.
début, je le faisais, mais maintenant, je le fais plus parce que c'est compliqué. Puis en plus, ça amène des questions inutiles. Ah oui, pourquoi ces dernières ou les acheteurs disent, ah, mais je préfère plutôt celui de 2017 plutôt que celui de 2002. Voilà. Alors qu'en fait, maintenant, non, je date pas. Je
Donc,
date.
votre peinture devient intemporelle.
C'est gentil de me dire ça, mais
De fait.
je ne sais pas si c'est de fait, mais en fait, moi, non, je ne le marque pas. On verra bien ce que deviendra ma peinture. J'ai pas fini mon chemin. Enfin, j'espère ne pas
Alors,
l'avoir
on ne
fini.
finit jamais une carrière,
Non,
elle
je
n'est
l'ai pas
jamais
fini. Voilà.
terminée.
Vous savez, Picasso, il disait, mais j'ai mis toute ma vie pour dessiner comme un enfant, parce qu'à 16 ans, je dessinais comme Raphaël. Moi, je peux pas dire ça. Moi, je vais dire que je vais mettre toute ma vie pour essayer de dessiner comme Picasso et comme Raphaël. Voilà. On va voir. C'est plus modeste, mais je vais
Il
faire
me semble
ça.
que vous êtes en bonne voie, quand même, si je puis me
Je vous
permettre.
remercie, Jacques. Mais c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que c'est un métier compliqué quand même. Un métier, ouais.
On parle un peu de livres, vous savez que dans toutes mes émissions, il y a toujours une séquence littéraire quelque part et
Oui.
l'heure a sonné de celle-ci. Vous avez, je crois, envie de nous parler d'un livre particulier, parce que vous en avez amené deux ou trois autour de vous. Alors, quel est-il?
Alors, moi, je vais vous parler. Je ne fais pas beaucoup de lectures, mais j'en ai fait. Mais j'ai un livre qui m'a passionné. C'est Le Prince Foudroyé de Laurent Grésalmer, qui est un journaliste
Oui,
du Monde,
tout à
et qui
fait.
s'appelle La vie d'un colossal. Peut-être que vous le connaissez, ce
Non,
livre.
je n'entends pas
Voilà.
du tout.
C'est la vie du peintre Nicolas de Staël, qui n'a pas vécu longtemps, puisqu'il est né en 1914 et qu'il est mort en 1955 à Antibes en se suicidant. Et donc c'est un aristocrate russe, puisqu'il est dans une famille, et qui, après la révolution de 1917, a eu tout un tas de problèmes. Il a perdu ses parents, il est parti dans des familles d'obscurs en Pologne, en Belgique, puis après il a terminé. Il a cherché le succès, mais il était dans la misère la plus totale. Il a perdu sa première femme, il a eu. Mais il n'a jamais. Il a été d'une intensité totale. Je veux dire que si la définition d'un peintre est de la folie picturale, la folie acceptable, hein, je veux dire, parce que il cherchait, il avait vraiment des difficultés. Puis c'était une période de guerre aussi, dans les années 40 et tout ça.
Et parler de folie, il faut être un peu fou pour être peintre. Il y en a, qui l'ont été dans le.
Oui, mais peut-être qu'il l'a été, et même, je pense qu'il l'a été, mais il a été d'une sincérité absolue. Et peut-être que je suis même un peu gêné de parler de lui après tout ce que je vous ai dit, parce que en fait, lui, il a obtenu le succès à 39 ans. À peu près, hein. Il est mort à 41. Et quand il a eu le succès, il a dit « je suis foutu ». Et moi, je cours après le succès, là, en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, c'est peut-être l'absolu, là. Il y a quelque chose dans ce peintre, et puis Nicolas de Staël, c'était l'abstraction qui naissait, tout ça. Il travaillait ses aplats, il travaillait ses peintures au couteau. Il avait comme copain, enfin, comme ami Braque, hein, oui. Donc et voilà, et René Char. En fait, c'est un livre passionnant qui donne envie de peindre et en même temps qui vous glace un petit peu parce que vous dites c'est ça la vie d'un peintre. Moi, c'est ce qui m'avait toujours.
Il n'y a pas la vie d'un peintre, il y a la vie de différents peintres en fonction de leur équation personnelle.
Oui, non, je veux dire la vie d'un peintre. Mais moi, au départ, si vous voulez. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais c'était dans mes lectures, tu vois, je pensais que la vie d'un peintre... Regardez, Van Gogh, vous prenez Modigliani, vous prenez, comment il s'appelle ce peintre-là, Soutine, tous ces peintres-là, ils ont galéré un maximum, mais ils ont pas eu tous la chance de Picasso ou même de Bernard Buffet. Hein. Ils ont galéré, ils sont restés dans la misère, puis ils ont eu... Après, moi j'avais cette idée-là du métier de peintre, ça m'a fait peur d'ailleurs, hein. Ça m'a fait peur.
Un peu maudit.
Ah oui, on me dit, puis on dit, c'est un truc impossible, quoi. Quand on tombe dans la peinture, on ne s'en relève pas. Et en fait...
Ben dans le passé, il y en a eu d'autres. Regardez, par exemple, la vie de Caravage, qui était quelque chose d'absolument extraordinaire, mais ça a mal fini aussi.
Ça a mal fini, voilà. Je ne la connais pas parfaitement, hein, mais je me suis plutôt intéressé à cette génération. Mais De Staël, pour en revenir à lui, hein, dans le peintre, moi je le conseille de le lire parce que franchement, c'est un bouquin qui vous dévore. Quoi. Il est très bien documenté.
Puis Laurent Griesmeyer, ouais. Qui est le Griesmeyer, pardon.
Moi je le connaissais pas. Hein, donc
un grand journaliste, donc c'est chez Fayard, Le prince foudroyé, voilà. Ou La vie de Nicolas de Staël. Voilà.
Et alors, dans un autre domaine, je suis en train de regarder, alors là, je suis en train de lire, il est à la fin. C'est le livre d'Orlinski. Orlinski, vous savez qui c'est ?
Non.
Eh bien, c'est actuellement le sculpteur français qui vend le plus cher et qui le vend le plus dans le monde et qui talonne, si vous voulez, Jeff Koons et tout le reste. Donc, c'est quelqu'un qui écrit « Pourquoi j'ai cassé les codes ?» Ça m'intéressait parce qu'il a un parcours brillant. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Vous savez, c'est le crocodile rouge, c'est la panthère, c'est en résine qu'on voit partout. Et il explique son parcours et il explique ses méthodes. Alors lui, c'est des méthodes un peu particulières, parce que quelqu'un qui arrive d'une famille tout à fait, ordinaire, puis qui avait une ambition démesurée, qui commence par gagner sa vie en étant aménageur d'appartement, et puis après, un jour, il en a marre, il décide de devenir sculpteur avec ses méthodes à lui. Donc il squeeze les marchands, il squeeze les galeries, en fait, il fait tout un tas de choses, et il devient... indépendamment du circuit officiel des galeries, indépendamment de tout ce qui est circuit officiel d'art, eh bien, il devient le plus grand sculpteur français actuellement, en tout cas sur ArtPrice. Et voilà. C'est un livre passionnant aussi, parce que c'est une autre méthode. Voilà.
Oui, c'est chez Michel Lafon. Il est jeune d'ailleurs, ce garçon.
Et, il est jeune, il doit avoir 40 et quelques années.
Un bambin.
Oui.
Richard Orlinski, ouais, pourquoi j'ai cassé les codes.
Voilà.
Bien, écoutez, voilà un deuxième conseil de lecture.
Et alors après, bon, ça va peut-être faire marrer, mais moi je l'aime bien. J'ai lu ça aussi, c'est Depardieu le monstre, hein, voilà, oui. C'est ça que je vous conseille de lire, parce que Depardieu, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, on peut dire tout ce qu'on veut.
Il ne laisse pas indifférent.
Il ne laisse pas indifférent.
Tout le moins, ça c'est
et,
sûr.
Et encore, plus libre encore, là, il faut lire ce livre, parce qu'il donne des avis, des conseils qui sont avisés, puis des choses qui sont... C'est brut de décoffrage. Et puis je l'ai tellement aimé, ce livre... Ben moi, je n'ai pas le contact avec Depardieu, mais vous savez, à un moment donné, Giscard d'Estaing, il venait chez les gens comme ça pour discuter.
Oui, il faisait monter les éboueurs pour le petit déjeuner.
Voilà,
aussi.
Mais moi, j'aimerais bien que Depardieu, avoir son numéro, et lui dire, ben, venez manger, je prévoirai ce qu'il faut, mais venez.
Il vaudra mieux prévoir, parce qu'apparemment, il a du coffre, hein, le garçon.
Voilà. Venez, parce que je discuterai bien avec Gérard Depardieu, voilà, parce qu'il y a des choses... Voilà. Alors, ce n'est pas de la haute littérature, je vous l'accorde, Jacques, puisque vous êtes certainement plus érudit que moi là-dessus, mais il y a parfois des livres comme ça qui me marquent.
Ben écoutez, nous le retenons aussi. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés au bout de notre visite chez vous. Merci, Luc Beaufils, de nous avoir reçus, de nous avoir parlé de vos tableaux, de votre peinture. Et puis, nous reviendrons peut-être un jour voir l'évolution, parce que tout évolue, tout change.
Alors, c'est moi qui vous remercie aussi d'avoir consacré cette émission à ma peinture. Je ne sais pas si j'étais à la hauteur de vos attentes. En tout cas, je vous ai parlé avec sincérité. J'ai déballé un petit peu de façon confuse parfois. Mais merci beaucoup. J'ai apprécié votre présence et j'ai apprécié que vous me choisissiez pour votre émission.
Écoutez, c'était un
Encore merci.
plaisir et Esprit Occitanie vous remercie. Et on aura certainement l'occasion peut-être de vous écouter. Et puis j'ai l'intention aussi d'entendre un jour prochain, peut-être s'il veut bien se prêter à l'exercice, votre galeriste, Monsieur Souriant. Donc sur Esprit Occitanie, on reparlera encore de la peinture de Jean-Luc Beaufils.
Voilà, mais Monsieur Souriant, je vous donne ça peut-être en un scoop, et il serait ravi de vous parler de son
Eh
métier.
bien voilà, nous serons deux. Donc merci, merci pour ce moment de peinture, ce moment où vous nous avez un peu livré qui était Jean-Luc Beaufils et qui était sa peinture.
Merci Jacques.
Et à bientôt.
C'était comment?